Semaine Sainte 2022.
Semaine Sainte 2022 avec les Fraternités Apostoliques de Jérusalem.
Et enfin, le dernier enseignement de ce Triduum, un enseignement donné à deux voix par le frère David-Marie et la sœur Rita. Bonne écoute.
Alors le thème de ce soir, de cet enseignement, c'est la liturgie de la veillée pascale que nous allons vivre ce soir ensemble. Alors saint Augustin, au IVe siècle, il appelait déjà la mère de toutes les saintes veillées. C'est donc la mère de toutes les vigiles. Et aujourd'hui, le missel romain dit que la veillée de cette nuit est la plus grande et la plus noble de toutes les solennités. Donc aujourd'hui, ce que nous allons vivre ce soir, c'est vraiment le cœur de la foi chrétienne. Alors la veillée, elle comporte, veillée ou vigile, n'importe, c'est pareil. La veillée pascale comporte quatre parties et on va se relayer à vous en parler un petit peu. Donc la première partie, c'est l'office de la lumière et la proclamation de la Pâque, l'exultète. C'est la première partie. La deuxième, la liturgie de la parole, qui est une grande partie. Après, il y a la liturgie baptismale. Et la quatrième, c'est la liturgie eucharistique. Donc on commence avec l'office de la lumière. Alors le missel romain, il dit que la vigile pascale doit se célébrer entièrement de nuit. Elle ne peut pas commencer avant la tombée de la nuit et elle doit être achevée avant l'aube du dimanche. Alors si vous vous souvenez bien, l'année dernière, on était en plein couvre-feu et je me souviens des discussions qu'on avait. Parce que s'il faut faire la vigile pascale après le coucher de soleil et avant l'aube du dimanche matin, on ne savait pas du coup quand est-ce qu'il fallait. Et on sentait dans les discussions que ça nous tenait à cœur, à nous les chrétiens, de célébrer cette veillée vraiment pendant la nuit. Alors cette veillée ce soir, elle commence dehors. Le Christ, il est mort en dehors de Jérusalem. Et le tombeau était en dehors, donc la veillée commence dehors. Dans l'église, ici, dedans, toutes les lumières vont être éteintes. Ça va vraiment être la nuit. Il y a seulement le feu. Dehors, il y a un feu. Et la liturgie dit que c'est le feu nouveau. On parle du feu nouveau. Et le feu nouveau, c'est le symbole du Christ ressuscité. Lumière qui jaillit dans la nuit. On va apporter le cierge pascal dehors et on va l'allumer à partir de ce feu nouveau. On va prendre une petite bougie parce que c'est difficile avec le feu en entier comme ça, à le mettre dans le feu. Mais la flamme va venir du feu. C'est le signe du Christ ressuscité. C'est le cierge pascal qui va rester dans le cœur pendant tout le temps pascal, pendant 50 jours jusqu'à Pentecôte. Alors vous verrez le cierge pascal de près, si vous allez dans le cœur après. Il y a des symboles dessus. Alors il y a toujours une croix. Il y a les lettres grecques de Alpha et Oméga. C'est-à-dire que le Christ est le premier et le dernier. Il y a les cinq plaies glorieuses du Christ. Et il y a toujours aussi le chiffre de l'année, donc cette année 2022. Et cette année, puisque c'est une sœur qui l'a décorée, la croix va être décorée par des feuilles de vigne qui grimpent comme ça autour de la croix. Et elle m'a expliqué que c'est le signe que la croix est un arbre de vie. Ce n'est pas du bois mort, mais c'est un arbre, c'est du bois vivant, un arbre de vie. Et que le Christ donne le vin de l'Alliance Nouvelle. Donc le Christ, c'est le vigne. Et sur la croix, il donne le vin de l'Alliance Nouvelle. Et on voit même des petits oiseaux dans les feuilles de vigne. C'est le signe qu'à partir de la croix, il y a une création nouvelle qui commence. Alors, tous les baptisés ce soir, ou tous, sauf les catéchumènes, vous allez recevoir un petit cierge qui va être allumé au cierge pascal. Et ça signifie notre participation à la vie du Christ ressuscité. Alors Elvis et David et les autres catéchumènes qui sont là ce soir, ils n'ont pas cette lumière de le début, mais ceux qui vont être baptisés pendant la veille pascale, ils vont le recevoir après le baptême. Alors pourquoi on commence avec la lumière dehors? En fait, ce rite de la lumière s'inspire d'un rite juif. Au coucher de soleil, la veille du sabbat, les Juifs allument des lampes. Elles célèbrent le jour nouveau. Dans l'évangile de Luc, il y a une petite allusion à cela après l'ensevelissement de Jésus le vendredi saint au soir. L'évangéliste dit « le sabbat commençait à poindre ». Donc ça veut dire les Juifs commençaient à allumer les lampes pour fêter le sabbat. Et ce rite a été repris par les premiers chrétiens sous le nom de lucernaire, les lampes aussi. Et ils chantaient le chant que vous connaissez tous, « Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père. » Oui, vous connaissez. C'est la plus ancienne des hymnes chrétiens connus. Et donc, en fait, le rite va prendre toute sa dimension avec la veillée pascale. C'est vraiment le Christ qui est notre lumière, c'est le soleil levant qui ne connaîtra plus de couchant. Jésus est ressuscité, il ne mourra plus jamais, il est vivant. Alors quand ce soir vous tenez votre petit cierge allumé dans vos mains, vous pouvez vraiment dire « Seigneur, tu es ma lumière et mon salut ». Alors quand le prêtre entre dans l'église avec le cierge pascal, toute l'assemblée le suit. Ça vous rappelle quelque chose? Le feu devant, l'assemblée qui suit. Donc c'est comme la marche du peuple hébreu avec la colonne de feu qui marchait devant et le peuple derrière. En fait, ils marchaient comme ça pour fuir les Égyptiens, pour laisser derrière eux l'esclavage et la mort. Et nous aussi, on marche derrière le cierge pascal qui symbolise le Christ ressuscité pour sortir de la mort, pour le suivre, être dans la lumière. Et quand tout le monde est installé dans l'église, le diacre encense le cierge pascal et il monte à l'auban et il chante l'exultète. Les lumières de l'église sont toujours éteintes, on a juste la lumière du cierge pascal et nos petits cierges. Et c'est symbolique aussi parce que chanter l'exultète avec ce peu de lumière, en fait, c'est que le cierge pascal qui donne au diacre la lumière pour lire son texte. C'est symbolique parce que c'est le Christ qui donne la lumière pour comprendre les Écritures, le sens des Écritures. Et l'exultète, on l'appelle exultète parce que les premières paroles sont « Exultez dans le ciel, multitude des anges ». C'est l'annonce de la grande joie de Pâques. Alors la veillée commence comme ça, dehors avec la lumière, et après on annonce officiellement le Christ est ressuscité. Alors on peut se demander pourquoi c'est le diacre, le missel dit c'est le diacre qui chante l'exultète, et on a vu que ça a été le diacre depuis le 4e siècle. Et j'ai trouvé dans un dictionnaire du XVIIIe siècle, il dit « Cela peut indiquer que ce ne furent point les apôtres qui annoncèrent les premiers la résurrection. » Donc on l'a confié à un diacre. Et en effet, c'était pas les apôtres les premiers qui annonçaient la joie de Pâques, mais c'était les saintes femmes. Alors, on pourrait faire une longue méditation sur le texte de l'exultète qui est très très beau. Je vous donne juste quelques perles. Voici la nuit où le Christ s'est relevé victorieux du séjour des morts. À quoi nous servirait-il de naître
sans le bonheur d'être sauvé. Très beau. Et après, une phrase très très bien connue, « Ô bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur » et aussi « Ô nuit de vrai bonheur, nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme rencontre Dieu. » Et après l'exultète, on commence la liturgie de la parole.
Nous commençons donc la célébration de la parole. Tout à l'heure, un garçon m'a demandé, ce soir, il y aura combien de lectures ? Il y en a beaucoup. Parce qu'en fait, ce que nous allons entendre ce soir, c'est comme une fresque. C'est comme une sorte de vue d'ensemble sur l'histoire du salut. Alors pour parler de notre histoire, à nous, il nous faut d'abord commencer de contempler Dieu, Dieu en lui-même. Et donc la première parole de la première lecture tirée du livre de la Genèse, donc le tout début, c'est « au commencement ». Dieu créa, au commencement. Donc au commencement, il n'y a que Dieu. Et pour comprendre cette grande fresque des lectures que nous allons entendre ce soir, il nous faut tout d'abord rappeler que Dieu est plénitude de joie. Et Dieu est plénitude de joie parce qu'il est plénitude d'amour. C'est pas plus compliqué que cela. Vous voyez, dans notre vie à nous, si nous sommes dans une dynamique d'amour, nous sommes heureux parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc Dieu est plénitude de joie parce qu'il est plénitude d'amour. Et ensuite, avec la première lecture, nous voyons que Dieu désire communiquer cette joie, cette plénitude de joie à sa créature. Et nous avons pu le dire hier soir que dès la création d'Adam et Ève, nos premiers parents, le projet de Dieu, c'est l'Église. Voyez, il a créé l'homme et la femme sur cette terre avec la vie que nous connaissons, mais déjà Dieu avait en perspective l'Église et l'Église du ciel, parce que l'Église, et ça c'est le projet de Dieu, est appelée à être l'épouse de son créateur, l'épouse du Christ. Voilà le projet de Dieu. Il nous a créé à son image, capable d'aimer. Et donc il a créé en quelque sorte le temps, en tout cas le cheminement, pour que nous puissions entrer librement, volontairement, dans cette relation d'amour. Et nous savons que donc, nos premiers parents ont mal compris ce projet, ou du moins se sont laissés détourner par le tentateur. Et c'est là que commence justement l'histoire du salut. Nous avons maintenant besoin d'être sauvés, parce qu'il y a une blessure originel, donc il faut une guérison éternelle. Et alors Dieu commence, l'histoire sainte, ou plutôt l'humanité, essaye avec Dieu de cheminer vers ce salut, avec Noé, donc ensuite avec Abraham, et nous sentons que ça n'aboutit pas. Et nous allons ce soir lire de nombreuses lectures de l'Ancien Testament pour voir que finalement, toutes ces lectures qui n'ont pas vraiment abouti quant au salut, sont cependant des annonces, des préfigurations de la mort et de la résurrection de Jésus. Saint Paul, donc bien plus tard, il dira « Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Le Christ est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Donc nous voyons bien que cette nuit, pour nous, vont s'accomplir l'ensemble des Écritures. Alors juste pour donner quelques exemples, Isaac, qui allait être sacrifié par Abraham, c'est la préfiguration du sacrifice de Jésus. La traversée de la mer Rouge, qui est la lecture principale de l'Ancien Testament ce soir, préfigure le passage de la mort à la vie. Mais nous avons aussi Isaïe qui dit « Comme une femme abandonnée, c'est nous, le Seigneur te rappelle. » Ou encore Ézéchiel « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Donc pour terminer ce parcours un peu sur la célébration de la parole, nous allons maintenant lire le passage clé de l'Évangile. Rita a très bien expliqué, donc c'est le diacre qui annonce, parce que les apôtres, ils n'étaient pas là. Il y avait les femmes qui sont arrivées au tombeau, Mais le premier qui a annoncé la bonne nouvelle, c'est l'ange, ou les anges du Seigneur ce soir, ils sont deux. Et voilà ce qu'ils disent. « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Rappelez-vous, c'est exactement ce que nous allons vivre ce soir. Nous allons suivre le conseil des anges. Rappelez-vous ce qu'il vous avait dit quand il était avec vous en Galilée. Il fallait justement que le Christ souffre et que le troisième jour, il ressuscite. Donc en écoutant cette parole ce soir, j'espère que nous allons avoir le cœur tout brûlant, hein, comme Cléophas et l'autre disciple, parce que Jésus leur expliquait les Écritures. Et donc ce soir, il va nous aussi nous introduire dans le grand mystère du salut.
Donc après l'évangile, les lectures de l'évangile et l'homilie, il y aura la liturgie baptismale qui commence. On a la joie ce soir d'avoir deux baptêmes d'adultes. Donc en France, le nombre des baptêmes d'adultes augmente chaque année. C'est une bonne nouvelle. Et je dirais même que les catéchumènes sont aujourd'hui la richesse de l'Église. Nous avons besoin des catéchumènes, parce que pour eux, pour nous, c'est une preuve que Dieu est vivant. Alors depuis le premier siècle, c'est dans la nuit de Pâques que les adultes ont été baptisés, jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a un lien entre l'initiation chrétienne et la Pâque du Christ. En cette nuit, le Christ passe de la mort à la vie. Et les catéchumènes, ceux qui sont baptisés ce soir, font le même passage de la mort à la vie. Ils sont plongés dans la mort du Christ et commencent une vie nouvelle. Alors le mot baptême vient du grec baptiso, qui veut dire plonger, baigner, mouiller. Il faut se mouiller quand on est chrétien. Mais tout baigne bien. On peut baptiser des adultes par immersion. Et certaines paroisses le font, des fois encore. En plongeant le catéchumène dans l'eau, tout entièrement ou seulement la tête, ou par ablution, en versant de l'eau sur la tête. Aujourd'hui, c'est plus courant de baptiser par ablution. Mais les premiers chrétiens, ils ont toujours été baptisés par immersion. C'était vraiment un plongeon. Après leur baptême, il y aura des rites qui déploient la grâce du baptême. Donc il y a l'onction du Saint-Crème qui a été consacrée cette semaine à la messe chrismale. Le mot crème, il vient du latin chrisma qui veut dire onction. Et cette onction n'est pas à confondre avec la confirmation. Donc Elvis et David ne seront pas confirmés ce soir, même si c'est aussi le Saint-Crème dans les deux cas qui est utilisé. Ils seront confirmés par l'évêque à Pentecôte. Mais c'est une onction où le prêtre prie, quand il fait l'onction sur la tête, « Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez membre du Christ, prêtre, prophète et roi pour la vie éternelle. » Après l'onction et la remise du vêtement blanc, donc on est revêtu du Christ par le baptême, c'est le signe de la vie nouvelle. Et les néophytes, ils sont des créatures nouvelles dans le Christ. Alors après le baptême, on les appelle les néophytes, des fois aussi les illuminés. Et néophytes, ça veut dire les nouvelles plantes dans le jardin de Dieu, qu'il faut encore bien arroser et en prendre soin. Ils reçoivent un cierge allumé au cierge pascal. Et quand un enfant est baptisé, vous voyez, le prêtre il remet le petit cierge aux parents ou aux parrains, parce que c'est eux qui ont la responsabilité d'entretenir la lumière de la foi. Mais ce soir, on peut le remettre aux parrains, mais le parrain le remet aux nouveaux baptisés parce qu'ils ont fait une démarche personnelle, ils sont responsables eux-mêmes de cheminer dans la foi. Alors, même s'il n'y a pas des baptêmes pendant une vigile pascale, il y a quand même la liturgie baptismale. Et c'est très important parce qu'elle n'est pas que pour les adultes qu'on baptise, mais elle est surtout pour nous tous. Elle est pour chacun de nous baptisés. Parce que pendant cette veillée, ce soir, nous allons revivre notre baptême. Nous allons renouveler la grâce du baptême. Et on va tout vivre comme dans un baptême. On invoque les saints, le prêtre il bénit l'eau, nous renouvelons les promesses de notre foi baptismale. Alors nous redisons ce soir la renonciation à Satan et notre foi en Dieu. Nous voulons à nouveau mourir à l'homme ancien et en nous et renaître avec le Christ à une vie nouvelle, comme nous allons entendre aussi à la vigile dans la lettre de saint Paul aux Romains. Le baptême, c'est mourir à l'homme ancien et renaître à une vie nouvelle. Et ensuite, nous rallumons aussi notre petit cierge et nous n'allons pas être plongés dans l'eau, mais il aura une aspersion avec l'eau bénite, signe du baptême. Et pendant cette nuit, donc, du coup, vous pouvez vous préparer à cette démarche pour redire vraiment au Christ votre amour, votre joie de vivre avec lui. Et aussi, puisque nous vivons ça tous ensemble, c'est aussi l'occasion pour redire et pour réaliser combien nous sommes frères et sœurs dans le Christ. Donc après cette liturgie baptismale, il y aura la prière universelle, où participent déjà les nouveaux baptisés pour la première fois, et l'offertoire et la liturgie eucharistique.
Donc pour l'Eucharistie, ce que nous allons vivre ce soir est tout à fait extraordinaire, puisque vous vous rappelez, il y a 3 jours, le jeudi soir, nous avons célébré la scène. Et Jésus a dit, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Donc nous sommes en plein dans l'offrande. Nous sommes dans l'offrande de Jésus envers son Père. Nous sommes dans le sacrifice. Il n'y a qu'un sacrifice qui nous sauve, c'est la mort de Jésus sur la croix. Et cependant, quand nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes rendus contemporains de la scène et de ce sacrifice unique. Et en même temps, cette nuit, nous allons célébrer la résurrection. Vous voyez, la passion et la résurrection. Dans l'Eucharistie, c'est indissociable. Et en fait, c'est le mystère pascal, justement, qui ne fait qu'un. Et alors quand nous allons ce soir célébrer l'Eucharistie, nous sommes rendus contemporains de la mort de Jésus sur la croix et en même temps, nous allons communier au corps du Christ ressuscité. Bien sûr, hein, nous n'allons pas communier au corps de Jésus que les apôtres ont touché d'avant sa mort et sa résurrection. Nous allons communier au corps du Christ ressuscité qui est au-delà de l'espace, qui emplit l'univers. Hein, c'est dans ce sens-là que nous pouvons communier à son corps. Et en communiant à son corps ressuscité, nous allons devenir nous-mêmes le corps du Christ. À la fin, moi j'aime beaucoup ça, à la fin de l'Eucharistie, l'autel est bien rangé. Il n'y a plus rien sur l'autel. Nous avons remis au tabernacle, sur l'autre côté, les hosties consacrées qui restaient. Par contre, il y a l'assemblée. Et c'est nous qui avons communié au corps du Christ ressuscité, qui devenons son corps. Je vous avais dit que le projet de Dieu, dès le départ, c'était l'Église, pour que nous soyons l'épouse du Christ et pour que nous devenions le corps du Christ. Et ce soir, en communiant au corps du Christ ressuscité, nous allons devenir le corps du Christ. Nous allons devenir son épouse bien-aimée. Donc, voyez, nous célébrons à la fois la scène de Jésus et nous célébrons aussi cette première Eucharistie que le Christ ressuscité a célébrée avec Cléophas et l'autre disciple, les disciples d'Emmaüs. Et quand Jésus a partagé le pain, eh bien, il a disparu à leur regard. Et cependant, dans leur cœur, il y avait tellement de joie qu'ils se sont levés, qu'ils sont revenus à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, tant que nous sommes sur cette terre, nous ne pouvons pas mettre la main sur Jésus. Vous voyez, nous aimerions, un peu comme Marie-Madeleine, hein, l'accrocher, le retenir. Et Jésus lui dit, ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Par contre, il nous entraîne avec lui, puisque dans l'Eucharistie, nous ne faisons plus qu'un avec lui. Eh bien, il nous entraîne avec lui auprès de son Père dans la foi. Dans la foi, et c'est énorme, nous sommes déjà le corps du Christ, l'épouse bien-aimée du Christ. Eh bien, c'est ainsi que le projet de Dieu se réalise ce soir parmi nous. Amen.